France Musique.
L'âme sœur. L'histoire de Nathalie Bauer-Lechner et de Gustav Mahler. Un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano. Épisode 5. Il y eut un après.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de L'âme sœur. Nous avons laissé Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler en pleine idylle à Majorne. Il a commencé à composer la 5e symphonie. Une fois de plus, Nathalie peut croire à un avenir commun. Ne lui a-t-il pas confié à propos de l'un des leaders de Rückert ?
On y ressent l'émotion contenue. Heureuse de se trouver en face d'un être aimé dont on est parfaitement sûr, sans qu'il soit nécessaire d'échanger un seul mot entre les âmes.
Revenus à Vienne, Gustav et Nathalie retrouvent leur promenade au Prater. Sauf que, Mahler de nouveau fait marche arrière, sous l'influence de sa sœur, la jalouse Justine, mais aussi parce que son désir ne le porte pas vers Nathalie. Elle est habituée à ses volte-face et ne s'en inquiète pas outre mesure. Elle n'ignore pas qu'une nouvelle femme a fait son apparition. Alma Schindler, une jeune beauté, douée, musicienne et séductrice. Mais ce n'est pas la première, n'est-ce pas ?
Zauber für
Le 20 novembre 1901, Nathalie assiste en compagnie de Bruno Walter au concert de la Philharmonie qui donne la quatrième de Mahler, déclenchant les huées et les insultes comme à Munich et à Francfort. Hors de lui, Walter hurle furieux. « Vous serez crevés depuis longtemps quand Mahler et son œuvre immortelle auront la vie éternelle. » Ce cri est la dernière phrase des Mahleriana. Ou presque. Un court paragraphe la suit et clôt définitivement le texte. Il dit tout de la tristesse de Nathalie.
Mahler s'est fiancé il y a 6 semaines avec Alma Schindler. Si je voulais m'exprimer à ce sujet, je me trouverais dans la situation d'un médecin obligé de traiter, à la vie ou à la mort, l'être qui est le plus proche et le plus cher. Que l'aboutissement de tout cela soit laissé entre les mains du Maître éternel et suprême.
Gustav Mahler et Nathalie Bauer-Lechner ne se reverront jamais. C'est l'amitié qui va aider Nathalie dans une période sans doute très difficile. Le groupe des amis de jeunesse, rejeté par Gustav Mahler sous l'influence d'Alma, resserre ses liens autour d'elle. Et contre toute attente, c'est la cantatrice Anna von Mildenburg, l'ancienne rivale, qui va lui témoigner le plus touchant soutien. Elles vont devenir proches. Mahler, lui, fréquente grâce à Alma le groupe des artistes de la Sécession, Karl Moll, le beau-père de sa femme, Gustav Klimt, Kolo Moser ou encore Alfred Roller, avec lequel il va collaborer pour la mise en scène d'opéra, initiant avec Tristan et Isolde une véritable révolution scénographique. Dirigée par Mahler, Anna von Mildenburg interprète les grands rôles wagnériens à l'Opéra de Vienne. Elle-même est souvent la proie de sentiments passionnés. Nathalie lui écrit
« Ce qui m'a sauvée des tempêtes de la vie, c'est que je me suis détournée du monde extérieur. De toutes mes forces et de toute ma volonté, je me suis réfugiée dans mon monde intérieur et son miroir tranquille et clair. »
Thank you.
ne faudrait cependant pas imaginer Nathalie en amoureuse esselée. Son énergie vitale et son optimisme irréductible la poussent en avant. Les concerts et les tournées avec le quatuor Soldat Tröger ont repris. Elle mène aussi une vie sociale très active. Ses étés se déroulent désormais sous d'autres cieux que ceux de Maiernig et en d'autres compagnies que celles de Gustav Mahler. Elle fréquente des lieux de villégiature aimés de son milieu. Les eaux thermales de Marienbad, la montagne sur les rives du lac de Garde, ou la plage du Lido à Venise, où elle retrouve Anna von Mildenburg et leurs amis communs. Toutefois, on ne peut s'empêcher de sentir dans ses lettres le reflet d'une certaine solitude. Elle a perdu son âme sœur. Mais Nathalie entend forcément parler de Mahler. Et pas seulement par Bruno Walder ou Anna von Mildenburg qui travaillent avec lui. Le directeur de l'opéra est un personnage public. Dans cette Vienne passionnée de musique et d'art où se déploient désormais toutes les métamorphoses de la modernité. Architecture futuriste, automobile, électricité, métropolitain. 1907 va marquer un tournant pour Nathalie Bauer-Lechner et pour Gustav Mahler, comme pour le monde musical, qui voit notamment la création de la symphonie de chambre d'Arnold Schoenberg, admirateur de Mahler, au grand scandale du public du Musikverein. En 1907, Nathalie Bauer-Lechner publie un essai intitulé Fragmente, Gelerntes und Geleptes, Fragments, choses apprises et choses vécues. À la veille de ses 50 ans, elle dresse le bilan de ses expériences et de ses convictions.
Toute pensée est fragment,
explique-t-elle dans l'introduction. De fait, l'ouvrage aborde de nombreux sujets classés en trois grandes catégories. L'humain, l'hygiène et la musique. Ils expriment les trois domaines qui lui tiennent à cœur. La place des sentiments, la condition féminine, la spiritualité, les rêves, l'art, mais également la diététique, le sport ou la médecine naturelle. Elle dresse aussi la liste des êtres qu'elle admire. Et Gustav Mahler vient en premier, désigné par ses initiales. La fin du livre est une célébration du compositeur qui résonne comme un pardon.
De tous les esprits créatifs, aucun n'est aussi étranger, aussi peu familier avec la vie et aussi pauvre sur terre que le compositeur, qui doit ressentir et expier le fait que son royaume n'est pas sur terre. Son esprit s'élève aux sources primordiales de tout être. Mais après une telle fuite, et après avoir vu et créé, il revient au monde comme aveugle et perdu, douloureux et blessé.
Bruno Walter apprendra à Nathalie que Mahler a lu son livre longuement et attentivement, au grand agacement d'Alma. C'est en 1907 que le quatuor Soldat Tröger interprète avec Bruno Walter le quintet opus 34 de Brahms que nous venons d'entendre. Mais cette année réserve d'autres plaisirs à Nathalie Bauer-Lechner, en particulier la rencontre avec un jeune peintre vénitien de 28 ans, Pier Domenico Voltolino, à San Marino di Castrozza dans les Dolomites. Il devient, selon ses termes, son cavaliere servante et lui rend sa jeunesse. Il fait même son portrait. Le cœur de Nathalie bat à nouveau pour offrir de l'amour. Elle lui consacre une biographie, hélas disparue aujourd'hui. Pour Gustav Mahler, 1907 fut aussi une année clé, malheureusement pour des raisons moins réjouissantes. Si la direction d'orchestre lui réserve de grandes réussites, par exemple avec les Noces de Figaro, il continue à rencontrer une opposition systématique qui tourne à la cabale aux relents parfois antisémites. On lui reproche aussi de s'absenter trop souvent de Vienne pour diriger ses propres œuvres à l'étranger. Et on lui impute l'augmentation du prix des places, due en réalité à une forte inflation. Excédé, Gustav Mahler décide de donner sa démission de directeur de l'Opéra de Vienne et accepte un engagement au Metropolitan Opera de New York. Parallèlement, la vie personnelle de Mahler tourne au drame. Privée par son mari de ses ambitions musicales et de ses occupations mondaines, Alma est devenue à son corps défendant un modèle d'épouse tel que la souhaite Mahler.
Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux.
Elle a mis au monde deux petites filles, Maria, dite Putzi, et Anna, dite Gucki. Gustav Mahler est particulièrement attaché à Putzi. Hélas, la fillette meurt d'une diphtérie à Maiernigg en juillet 1907. Comme pour son frère Otto, le compositeur des Kindertotenlieder n'en parlera pas et enfouira cette douleur en lui-même. À cette époque, Mahler apprend également qu'il est atteint d'une grave faiblesse cardiaque, lui interdisant toute activité physique intense, un drame pour lui. Le 9 décembre 1907, malgré le soutien d'une grande partie des intellectuels autrichiens, Gustav Mahler quitte Vienne pour New York avec Alma. Ses admirateurs sont sur le quai de la gare. C'est fini. Ce serait exclamé Gustav Klimt quand le train s'est mis en marche. Une page est tournée. les malheurs ne reviendront pas à Maïernik, trop douloureux. Ils passeront désormais leurs étés à Toblach, découverts avec Nathalie, bien des années auparavant. De 1908 à 1910, Gustav Mahler compose « Das Lied von der Erde », « Le chant de la terre », la 9e symphonie et la 10e qu'il n'aura pas le temps d'achever. En 1910, survient une grave crise avec Alma, tombée amoureuse du jeune architecte Walter Gropius. Mahler la surmonte péniblement, grâce à l'aide notamment de Sigmund Freud, qu'il consulte à Leiden en Hollande, où celui-ci passe ses vacances. Sa dernière symphonie porte la trace manuscrite de cet amour de Mahler pour Alma, devenu déchirant. Gustav Mahler, que nous venons d'entendre interpréter au piano le Trauermarsch de la 5e symphonie, quitte les États-Unis pour l'Europe. Quand il arrive à Vienne en train, il est mourant. Allongé sur une civière, il est porté avec d'infinies précautions. Stefan Zweig, qui par hasard s'est trouvé sur le même bateau que lui au retour de New York, le décrit d'une pâleur de mourant, immobile, et les paupières closes. Il régnait à ce moment une tristesse sans bornes, mais aussi un je ne sais quoi qui transfigurait tout par sa grandeur et se perdait dans le sublime. Gustav Mahler meurt le 18 mai 1911 à 51 ans, 5 jours après son retour à Vienne. Il est enterré dans le petit cimetière de Grinzing où se trouve déjà sa chère Putzi. En mars 1912, paraît un cahier spécial de la revue Der Märker consacré à Mahler. Parmi les contributions se trouvent plusieurs pages des Mahleriana sous le titre « Aus einem Tagebuch über Mahler » tiré d'un journal sur Mahler. La signature de Nathalie Bauer-Lechner ne figure pas sous le texte, sans doute sous la pression d'Alma et de Justine. Mais le tout Vienne musical sait très bien qu'elle en est l'auteur. En 1920, un autre extrait, cette fois sous sa signature, paraîtra dans un numéro des Musikblätter des Hahnbuch consacré au compositeur. Chacun exprime sa fidélité et sa tristesse à sa manière. Arnold Schönberg écrit cette Abschied, adieu, un mois après la mort de Gustav Mahler. Bruno Walter dirige en 1912, à Munich, Das Lied von der Erde, le chant de la terre, que Mahler n'a pas eu le temps d'entendre jouer. Cet hymne à la nature, inspiré d'un recueil de poèmes traduits du chinois, célèbre aussi la vie avec ses tristesses, ses deuils et ses joies. Leonard Bernstein y voit la résolution du conflit qui, selon lui, marque toute la musique et la vie de Mahler entre immanence juive et résurrection chrétienne, das irdische Leben et das himmlische Leben, la vie terrestre et la vie céleste. Nathalie Bauer-Lechner poursuit, elle, ses concerts avec le Quatuor. Le dernier, à notre connaissance, a lieu à la Bösendorfer Saal en 1913, peu de temps avant sa fermeture. Sa carrière d'altiste ne s'arrête pas pour autant, car elle donne un certain nombre de récitals en solo dans la petite salle du Musikverein et ailleurs, en Autriche, à Trieste et en Allemagne. L'irruption de la Première Guerre mondiale va bousculer sa vie, comme celle de millions d'êtres en Europe.
Die Sonne scheint hinter dem Gebirge in alle Täler steigt ihr Abend seinen Schatten, die voll Kühlung sind. Thank you.
Les Autrichiens comme les Français se précipitent dans la guerre, la fleur au fusil, pressés de défendre leur patrie outragée par l'assassinat de l'archiduc Ferdinand et de son épouse. Mais les sévères revers que leur armée, très mal préparée, ne tarde pas à subir, en particulier sur le front russe, douchent assez vite leur enthousiasme. Il faut se rappeler les ravages de cette guerre sur l'Autriche-Hongrie, subissant la famine, le froid, la maladie et de très nombreux morts et mutilés. Nathalie Bauer-Lechner, comme ses amis socialistes, est pacifiste. On lui attribue le brouillon d'un écrit, Gegen den Krieg, contre la guerre, qui n'a sans doute pas été publié et a disparu depuis. Mais rien ne prouve qu'elle soit allée en prison, comme on le lit parfois. Sa correspondance nous indique une autre piste. Pour elle aussi, comme pour de nombreux Autrichiens, la guerre est une période terriblement difficile. Et cela, malgré l'aide d'Anna von Miltenburg. Celle-ci se produit régulièrement à l'Opéra de Vienne jusqu'en 1917. Elle a créé le rôle de Clytemnestre dans l'Électra de Richard Strauss et elle l'interprète à Covent Garden à Londres, à Amsterdam ou à Bruxelles. Elle s'engage ensuite comme infirmière bénévole à l'hôpital de Salzbourg où elle habite avec son mari, Hermann Bahr, dont elle a pris le nom. Elle signe désormais Bahr Miltenburg.
Die Kraft zu jüngen.
Nathalie reprend contact avec Anna en 1915. Elle lui apprend que l'hiver précédent, elle a été hospitalisée durant 3 mois dans un sanatorium pour une maladie nerveuse. Toujours positive, elle conclut.
Mais du point de vue de la santé, grâce à Dieu, ça va à nouveau, et être active est déjà un grand bonheur.
Nous ne saurons rien de plus sur ce séjour, sans doute à l'origine de son enfermement à la demande de sa famille. C'était bien une prison, mais d'un genre particulier. À plusieurs reprises, Anna offrira à Nathalie, qui habite toujours Vienne, de séjourner dans sa maison de Salzbourg ou dans son appartement viennois, plus confortable que la chambre modeste où vit désormais l'altiste. En 1916, Nathalie fait la connaissance du jeune Hans Riehl et l'année suivante, elle rédige à sa demande une longue lettre sur Mahler et les femmes. Ce texte a été retrouvé il y a seulement quelques années. Le plus intéressant en est l'analyse qu'elle fait de sa propre relation avec le grand amour de sa vie. Nathalie propose aussi à Riehl de publier ses Mahleriana 20 ans après sa mort, ce qu'il ne fera pas. Tant mieux, en un sens, car Riehl deviendra l'un des responsables de la spoliation en Autriche des œuvres d'art appartenant à des Juifs. Un paradoxe quand on sait à quel point Nathalie Boerlechner était violemment opposée à l'antisémitisme qui régnait à Vienne. Mais comment aurait-elle pu deviner ? Nathalie rêve aussi de voir reprendre les concerts. Elle écrit à Marie Soldat Tröger.
Je suis fidèle à mon alto et je joue avec ardeur, comme s'il était toujours question de servir notre cher vieux quatuor sous ta merveilleuse direction.
Thank you. La pire période pour les Autrichiens fut sans doute l'après-guerre, dans un pays réduit à ses frontières les plus étroites et en proie à une colossale inflation. Nathalie Bauer-Lechner plonge dans la misère. Elle vit dans une pension de la banlieue de Salzbourg, souffre du froid et de la faim. Grâce à Anna Bar-Mildenburg et à Bernard Paumgartner, qui avait été l'élève de Nathalie, elle est engagée au Mozarteum, l'Institut Mozart, pour y donner des cours d'alto. Elle se consacre pleinement à cet enseignement durant toute l'année scolaire 1919-1920. Mais sa santé chancelle. Elle est à nouveau hospitalisée au sanatorium der Kaufmannschaft avant d'être recueillie, très diminuée, par son frère Oscar en échange d'une pension journalière. Elle meurt le 8 juin 1921, 10 ans, presque jour pour jour, après Gustav Mahler. Elle a 63 ans. Une grande partie de ses écrits a disparu. Une version mutilée de ses Maleriana paraît en 1923, puis en 1984, une version un peu plus complète est publiée grâce à son petit-neveu, Herbert Kilian. Toutefois, même incomplet, les Maleriana existent bel et bien. Ainsi, le souvenir de Nathalie Bauer-Lechner est-il à jamais inséparable de celui de Gustav Mahler? C'était « Il y eut un après », le dernier épisode de « L'âme sœur », l'histoire de Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler, un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano d'après son livre « L'âme sœur » aux éditions Stock. Un merci tout particulier à Charlotte Landru-Chandès et à Christophe Dillis qui ont prêté leur voix à Nathalie et à Gustav. équipe de réalisation, Benjamin Vignal, Charlotte Landru-Chandès et Béatrice Trichet.
À réécouter sur francemusique.fr.